À Puricard, au nord d'Aix, se trouve un château dont on peut encore apercevoir les ruines depuis la route du Seuil. Ce château a été construit par l'archevêque d'Aix, Jérôme Grimaldi, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Dans son oraison funèbre, Thoron d'Artignosc disait de Grimaldi qu'il était un esprit extrêmement subtil et éclairé, qu'il avait une parfaite connaissance de l'histoire et que grâce à cela, il était de tous les temps et de tous les pays dans la conversation des savants. Alors cet archevêque, il était génois de naissance et c'est lui, par exemple, qui a créé le séminaire de la ville, qui a restauré le palais archiépiscopal, qui a restauré le château de Jouques et qui a agrandi l'hôpital Saint-Jacques, qui est aujourd'hui l'hôpital d'Aix. Il était le fils d'un sénateur de Gênes. Il s'est destiné très rapidement à une carrière ecclésiastique après avoir fait des études juridiques à Rome. Et c'est le pape Urbain VIII, qui avait été élu pape en 1624, qui va lui permettre de gravir tous les échelons de la hiérarchie grâce à plusieurs missions diplomatiques. Alors Grimaldi, il va être chargé notamment des intérêts militaires français en Italie. Alors qu'il est chargé de cette mission, le cardinal Michel Mazarin, qui est l'archevêque d'Aix et le frère de Jules, le célèbre ministre du Royaume de France, décède. La question de sa succession à la tête de l'archevêché d'Aix va se poser. Le roi de France nomme Grimaldi, mais le pape, Innocent X, nomme de Noisé. La situation est bloquée, elle va le rester pendant 7 ans, avant que Grimaldi se voie confirmer sa nomination par le nouveau pape Alexandre VII. Alors il arrive à Aix en 1655. Dès qu'il arrive, il décide de faire construire le séminaire à ses frais et il entreprend de restaurer le palais archiépiscopal. Dans le même temps, il décide de s'installer à Puricard. Il ne veut pas vivre en ville et souhaite se trouver une résidence à la campagne. À Puricard, il y avait un ancien château qui avait été habité par la famille des Beaux plus de 70 ans auparavant et qui était à l'abandon. Grimaldi décide d'acheter cette propriété et il va demander à un architecte génois qui s'appelle Costanzo de concevoir les plans de sa nouvelle demeure. Alors il dit qu'il veut une résidence à l'italienne. Il va prendre pour modèle sa propre maison à San Pier d'Arena, qui est un quartier résidentiel de Gênes, mais il veut aussi que sa nouvelle maison ressemble à la Villa Médicis, au Palais Farnèse ou au Palais Mazarin à Rome. Il va se faire envoyer des plans de tous ces bâtiments, plans qu'on retrouve d'ailleurs encore dans les archives aixoises, et Costanzo sera chargé de mêler tous les plans de ces demeures résidentielles pour créer le plan de la résidence de Grimaldi à Puricard. Dans l'oraison funèbre de Grimaldi, toujours, on lit que par la solidité et la force de sa structure, le château de Puricard ressemble au bâtiment que les Romains voulaient rendre éternel. Dans cette demeure, Grimaldi avait prévu un grand nombre de salles de réception, beaucoup d'appartements, puisqu'il, en plus du sien, il y avait 12 appartements de réception, et le bâtiment principal occupait une surface colossale de 2000 mètres carrés sur 4 niveaux d'élévation. Le château était entouré de terrasses et de promenades, de parterres, de longues allées arborées et comptait de nombreuses dépendances. Dès le départ, on voit que ce château est conçu comme un mélange d'architecture provençale et d'architecture italienne. On peut voir l'influence des hôtels particuliers aixois de l'époque et, d'un autre côté, l'influence des villas italiennes et des palais génois. Alors, concrètement, comment se passe cette construction ? Grimaldi a un intermédiaire qui s'appelle Jean Forneau, qui est un marchand génois qui habite Marseille et qui va tenir le rôle de messager. Jean Forneau se rend à Gênes régulièrement et il va ramener de chacun de ses voyages des plans, des documents sur les techniques de construction et d'ornementation. On va faire venir de Gênes les marbres, les malons de céramique, des cheminées sculptées, mais aussi des arbres fruitiers, et Grimaldi va même demander que des ouvriers spécialisés viennent de Gênes pour effectuer certains travaux qu'il ne veut pas confier à des Provençaux. On trouve dans les archives de l'archevêché des documents rédigés en italien, des sortes de modes d'emploi pour réaliser des travaux à la génoise, comme par exemple la réalisation d'un pavement rouge, la taille de pierre pour réaliser des pavements particuliers, ou encore des données concernant les dimensions des portes et des fenêtres. Grâce aux plans et aux documents conservés dans les archives, on peut arriver à restituer une partie de la bâtisse principale. Au premier niveau, des soupiraux laissaient entrevoir des communs en entresol, c'est-à-dire semi-enterrés, comme des cuisines, des garde-manger, des réserves de bois. Le terrain sur lequel le château est construit est aménagé en terrasse et ça permet d'avoir un entresol du côté cour qui n'est pas visible du côté jardin. Alors ce niveau était voûté pour renforcer l'assise du bâtiment, puisque c'était un bâtiment gigantesque et très haut. Dans la cour, un escalier en fer à cheval permettait d'accéder au vestibule du rez-de-chaussée, qui était un grand espace ouvert, avec des voûtes en pierre soutenues par des gros piliers, dans lequel on trouvait également l'escalier d'honneur qui desservait le premier étage. Au-dessous de l'escalier extérieur, chose curieuse, un passage voûté traversait de part en part le bâtiment et permettait d'accéder au jardin directement depuis la cour. Il permettait également de faire passer les carrosses pour traverser la propriété sans avoir besoin de la contourner. Au rez-de-chaussée, il y avait des appartements, de part et d'autre du vestibule, et toutes les pièces étaient couvertes de voûtes de pierre et pavées de carreaux de briques ou de pierres froides. Au premier étage, l'étage que l'on dit noble, se trouvaient la grande galerie, les appartements de l'archevêque, des salles de réception, des salons, et il y avait également une salle de billard qui était très à la mode à cette époque. Les 12 appartements étaient répartis entre le rez-de-chaussée et le tiers restant du premier étage. Dans les villas italiennes, c'est à cet emplacement que l'on trouve généralement une terrasse. Mais ce n'est pas le cas ici. À l'origine, Grimaldi voulait une immense terrasse sur le toit. Mais elle a été vite enlevée à cause du poids des pierres qui étaient beaucoup trop lourdes pour la bâtisse. Alors le premier étage est pavé de carreaux de marbre et d'ardoises, on est dans un étage un peu plus riche. Que ces carreaux de marbre, on va les trouver dans la galerie, les salons et les appartements de l'archevêque. On trouve également des malons de gêne peints et vernissés sur les paliers, dans les chambres. Et cet étage n'est pas voûté comme le rez-de-chaussée, mais couvert de plafonds de bois, des plafonds à la française. Dans toutes les pièces de ce niveau, on trouve également des cheminées de marbre ornées de sculptures. Au-dessus de ce premier étage, on trouve un deuxième étage qui était, comme à l'accoutumée à cette époque-là, composé de petites pièces qui servaient de logement pour le personnel. On peut mentionner toutefois que ce personnel avait également droit à des salons, des garde-robes, donc était plutôt bien logé. Sur le toit, Grimaldi avait fait placer deux petits belvédères contenant chacun deux chambres pour ses invités, deux chambres reliées par une promenade qui est le dernier vestige de la grande terrasse qu'il avait voulu. Le reste de la toiture est en tuiles. Alors ces terres sur lesquelles se trouve le château sont entourées d'une muraille. Au début, il y avait une double enceinte, mais Grimaldi va finalement conserver uniquement la muraille la plus proche du château. Il va détruire l'autre pour permettre une circulation plus facile pour la livraison des matériaux nécessaires à la construction. Tout au long de cette muraille, on trouve une allée de peupliers qui encadrait une promenade et faisait le tour de la propriété. Alors grâce au cadastre ancien, on peut connaître la surface de la propriété À l'intérieur de l'enceinte, le château, les dépendances, les jardins et le parc couvraient près de 5 hectares. Le terrain était aménagé en terrasse, en amphithéâtre, soutenu par des murets de pierre, et le parc était planté de chênes, de pins, d'ormeaux, de marronniers d'Inde, d'amandiers, châtaigniers, peupliers, d'aubes, de trembles et de mûriers. La cour du château était délimitée par des arcades et, à l'ouest de la cour, légèrement en contrebas, on pouvait descendre dans un jardin carré, clos de murailles, en partie pour pallier à l'inclinaison du terrain et entouré de mûriers. De l'autre côté, on trouvait un pigeonnier qui existe toujours et des écuries construites avec les pierres issues de l'ancien rempart et de l'ancien château. Au nord, un jardin d'agrément reposait sur un imposant terrassement, jardin sous lequel se trouvait le passage voûté dont je parlais tout à l'heure. Les jardins étaient agrémentés de fontaines, de bassins et très certainement de sculptures. Un peu à l'extérieur se trouvait également une glacière privée destinée à l'usage exclusif du cardinal, et on trouvait également une chapelle et une apothicairie. Cette apothicairie a été finie peu de temps avant la mort de Grimaldi, et elle avait été construite pour loger le prêtre et l'apothicaire du cardinal. Après sa mort, grâce aux instructions contenues dans son testament, le bâtiment a été conservé, de même que la chapelle, pour pouvoir apporter des soins aux habitants les plus nécessiteux de Puricard et des environs, de leur distribuer des médecines, des potions et des bouillons de viande, le tout gratuitement. Ces deux bâtiments ont été utilisés jusqu'à la Révolution. Cette immense et luxueuse demeure n'a pas connu la postérité qu'elle aurait peut-être méritée. L'histoire de sa destruction est assez intéressante. À la mort de Grimaldi, en novembre 1685, le château et ses dépendances reviennent à l'archevêché. On va rapidement faire un rapport sur les réparations à faire, et il n'y a finalement pas grand-chose, le bâtiment est en bon état. 10 ans plus tard, alors que le château a été laissé à l'abandon, évidemment, une deuxième expertise est faite et beaucoup de travaux complémentaires sont à faire. Principalement, il s'agit des boiseries, des poutres, des planchers et des charpentes qui ont souffert de l'abandon du château, certaines voûtes qui présentaient quelques fissures, mais le plus gros des travaux à faire consiste dans l'arrachage et la plantation de nouveaux arbres dans le parc. Cette fois encore, aucune réparation ne va être faite et le château va continuer à se délabrer. Au début du XVIIIe siècle, Charles Gaspard de Vintimille arrive à la tête de l'archevêché d'Aix. Il demande un nouveau rapport concernant l'état de ce château, mais en réalité, il ne souhaite pas vraiment le réparer. Il commande un rapport à Laurent Vallon, qui est l'architecte de la ville d'Aix, célèbre architecte de la ville d'Aix, et Vallon nous dit que la maison n'a pas été bâtie avec beaucoup de solidité, que le terrain sur lequel elle se trouve est marécageux, ce qui est faux, et qu'il n'y a que peu d'espoir de rendre cette bâtisse assez solide pour résister au temps. Alors, pour donner une idée de la partialité du rapport et pour l'anecdote, il mentionne, par exemple, que l'ouverture des tuyaux de cheminée sur le toit fragilise la bâtisse. Alors, en réalité, Vintimille n'a pas du tout envie de dépenser de l'argent pour l'entretien de cette maison de campagne, et il va rapidement entreprendre des démarches auprès du roi pour obtenir la permission de démolir le château. De peur de froisser l'église, dont une des règles précise à l'époque qu'on ne doit point détruire ce qui a été une fois élevé à son profit, il est décidé de n'abattre qu'une partie du château. L'archevêque décide de faire tirer le canon, les matériaux sont mis aux enchères, mais les enchères ne donnant pas satisfaction, il est décidé de détruire entièrement le château. Le roi va donner son autorisation en 1711 et les matériaux qui vont en être tirés vont servir à la construction d'une nouvelle aile de l'hôpital Saint-Jacques, donc de l'hôpital d'Aix. C'est l'aile que l'on peut voir quand on descend l'avenue Pasteur sur la droite, juste après la petite chapelle. En 1791, enfin, le domaine va être vendu au titre des biens nationaux et aujourd'hui, 300 ans après sa destruction, Certains pans de murs du château s'élèvent encore jusqu'au troisième niveau d'élévation, des enduits intérieurs à la chaux et des parties de voûte sont encore visibles par endroits, donc finalement ce n'était pas une bâtisse si fragile que cela. Pendant longtemps d'ailleurs, les vestiges du château de Grimaldi ont attiré les visiteurs. Pour les voyageurs du XIXe siècle, par exemple, le château fut conçu pour durer dans la succession des siècles. Jean-Antoine Constantin écrivait d'ailleurs en 1890 que l'on ne quitte jamais Puricard sans visiter ces ruines imposantes, protégées désormais par leur faiblesse et qu'on voit se dresser, humiliées et hautaines à l'horizon.
Vous avez reconnu Sandrine Chavre, historienne de l'art.